Consonance. De la page à la voix. Porte-plume. Lecture libre. Consonance. Correspondance 7. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Robin le Curieux et Aurélien Lendemaine, du Cours Charmet. Les lectures dont cet épisode est l'objet sont issues d'une correspondance entre deux anciens poilus, compagnons d'infortune, dans les tranchées de la guerre de 14. Et ce qu'on apprend de ces lettres est étonnant à plus d'un titre. Armand et Gustave sont nés à 3 jours d'intervalle, en février 1892, l'un dans les Alpes, l'autre dans les Pyrénées. Les deux hommes sont les aînés de 3 sœurs. Leurs pères respectifs exerçaient le même métier de bourrelier. Ils sont incorporés au 26e régiment d'infanterie, dans la réserve, en 1914, puis dans le 226e régiment d'infanterie, où ils combattront en Lorraine et en Artois. C'est lors du même assaut qu'ils seront blessés tous les deux, en 1916, Armand reçut des éclats d'obus dans une jambe et Gustave fut gazé. Ils furent déclarés inaptes au combat, Armand ayant dû subir une amputation en dessous du genou et Gustave, dont les poumons furent sévèrement brûlés, ne pouvant plus courir. Ces deux hommes avaient immédiatement sympathisé, passant leur permission ensemble à Paris, là où Paulette, la fiancée de Gustave, résidait. Une fois leur inaptitude prononcée, Armand s'est installé chez un oncle, à Paris, et Gustave fut rapidement envoyé dans un centre pour grands brûlés, à Annecy.
Annecy, le 1er mars 1916. Mon vieil Armand, mon poteau, c'est ton copain Gustave qui t'écrit depuis la terrasse du centre où on m'a envoyé. Tu le croiras pas, mon ami. Mais ma chambre a vu sur le lac que ça me change bien de la boue dans laquelle on traînait tous deux. Sans compter l'hôpital où c'était surtout les fous et les morts qui nous tenaient compagnie. Ici, c'est propre, c'est beau, et puis surtout il y a si peu de bruit que j'ai jamais autant goûté le pépiment des oiseaux. Et on y mange frais avec du personnel de santé qui sont pas à courir partout pour rattraper leur retard. Cette fichue guerre, on n'y retournera pas. Et c'est tant mieux. Que j'ai toujours pas compris pour quelle raison on devait botter le train aux Allemands. Eh mais ça, je devrais pas l'écrire. On s'en est sortis, toi et moi, par la petite porte. Et même si on y a laissé des bouts comme dans les contes grecs, l'essentiel est bien de rester vivant. Quand je repense à Mauroy, à René Laguigne, à Albert l'Instituteur, au petit Quinquin et à tous ceux qui ont fini en purée, je me dis qu'il faut qu'on vive pour eux. Alors je me bats, même si ma peau est salement amochée au point que les médecins se demandent si le sang serait pas contaminé. Mais ce qui m'inquiète, ce sont mes poumons. Certes, l'air frais des montagnes me revigore, mais le moindre effort m'épuise. Je peux pas marcher plus de 100 mètres sans m'asseoir, et que mes soufflants, on dirait les grandes orgues de Notre-Dame. Bientôt, Paulette viendra en visite. Je sais que c'est pas simple pour elle, et de quitter son poste, et de circuler facilement vu que c'est pas la porte à côté. Mais elle me manque affreusement. D'ailleurs, je vais te laisser. Car c'est à elle que je vais écrire à présent. Ton copain, Gus.
Paris, le 20 mars 1916. Salut l'accordéon. Allez, je te chambre un peu, mais j'espère que tu vas vite récupérer. Car nous avons quelques balles en retard tous les deux. Bon, je te l'accorde, ça va pas être simple pour moi, la musette, vu que je me trimballe sur 4 jambes. Mais je viens de voir un médecin qui m'a proposé une prothèse en bois de sa fabrication. Oui, monsieur. Un tibia qu'on enfilerait comme une chaussette et qui ferait déjà mieux, et mobile avec ça. Que j'aurais pas l'air d'un pirate à jambes de bois. Une canne suffit pour garder l'équilibre. J'ai déjà fait l'essai, c'est traître. J'ai l'impression de réapprendre à marcher. Faut aller lentement au début, mais c'est pas plus difficile à servir qu'un canon de 75. Et je crache sur la guerre, tout comme toi. Je me doutais bien qu'il fallait pas que je compte sur une pension pour me la couler douce. C'est heureux que l'oncle Marcel m'ait proposé pour un emploi de comptable chez Mounier. Ça me permet de vivre convenablement, et avec ma jambe perdue, on me respecte. J'ai même une place rien qu'à moi dans le métro et dans l'autobus. T'imagines ? Dans sa fabrique, on sort des rivets, des boutons, des fermetures de toutes sortes. On fournit l'armée, je risque pas le chômage. Et sous peu, je prendrai un garni, mais en rez-de-chaussée. Ton copain pour la vie, Armand.
Annecy, le 22 avril 1916. Ah, mon ami, tu peux pas savoir comment tes lettres me réchauffent le cœur. Ici, je suis seul. Et toute la cargaison de pauvres types embarqués avec moi n'est guère présentable. Ils gênent beaucoup, se plaignent toute la journée. Je peux difficilement leur donner tort vu leur état. Il n'y a que deux autres gars avec qui je peux parler un peu. Mais ils sont parfois mutiques de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont vécu. Heureusement, ton optimisme me porte et ça me permet de conserver de la gaieté. D'autant que Paulette se désole dans sa dernière lettre de ne pas pouvoir avancer sa venue. Elle espère pour le mois de mai, si son patron veut bien la lâcher quelques jours. Mais au front comme à l'arrière, c'est la guerre qui nous tient. Cette chienne nous a pris nos belles années, mais je préfère voir le positif. Je sais bien que c'est dégueulasse, mais je le dis quand même. Laissez les autres s'en défaire de tout ce bourbier, car nous, on a bien assez payé. Paulette m'envoie des lettres à un rythme effréné, vois-tu. C'est une chance que je l'ai point mise en cloque, car c'est pas demain que je vais pouvoir la marier. Je m'inquiète un peu pour ma peau qui revient pas bien et pour mon intérieur, et que je connais pas, mais qui a pas l'air plus en forme que le reste. L'air froid soulage un peu la douleur. J'ai même fait quelques pas l'autre jour, près du lac, mais je ne vois guère de progrès. Et qui dit absence de progrès, dit recul. Et c'est pas la tête de médecin ni le glas que j'entends sonner parfois qui me rassure. Mais bon, je me dis qu'il y a des fermes tout autour et que le glas, ce doit être pour un vieux paysan et pas pour quelqu'un du centre. Garde-moi un coup à boire au frais. Je rentrerai sous peu et avec Paulette, on ira giguer tous les trois. Ou tous les quatre, j'espère bien. Avec ta gueule d'ange qu'on croirait sorti d'un tableau italien, tu dois tomber les poulettes, mon salaud. Je te serre sur mon cœur. Gustave.
Paris, le 25 mai 1916. Salut mon gars. Je profite de ma pause déjeuner pour t'écrire quelques mots. L'été est en avance et ça gazouille de partout. Je savoure le luxe de becqueter tranquille dans un square en regardant les gamins jouer au ballon et les jeunes mères pousser des landeaux. La guerre s'éloigne. Pas de notre pays, mais de mon esprit, même si j'ai l'impression que la fin n'est pas pour demain. J'ai chaussé ma nouvelle jambe. Un drôle de truc quand même, que t'as l'impression qu'on te suit alors qu'en fait, c'est sous toi. L'articulation est encore un peu rigide, mais elle commence à se faire. Comme je me fais à la marche en canard qui me mâche un peu les vertèbres. Avec ma canne, on dirait un milord que mon pauvre père dans son Béarn, il a fallu que je lui envoie une photo du tout, vu qu'il m'a écrit qu'il pouvait fabriquer la même jambe avec un bois de par chez nous qui m'irait bien mieux que des plantations du bassin parisien, vu qu'il serait de par chez nous le bois. Et mon pied en buis est à la bonne pointure. Du coup, j'ai pas à défaire mes lacets quand je vais me coucher. Oh, et j'ai pris un appartement. C'est pas que je voulais pas rester chez mon oncle, mais il y a déjà assez de monde là-bas. Et son fils, mon cousin Pierre, est quelque part dans les Ardennes. Bon, ça tirait un peu la gueule tout le temps, et je crois qu'on me jalousait d'être rentré, même avec un bout en moins. Oh, j'avais plus envie de ça. Je veux vivre. Je veux vivre, faire la fête et aimer. Même si ça déplaît. Car la vie est courte, aussi courte que ma jambe gauche. Mais il en reste toujours assez pour se faire une place au soleil. Je te bise, mon ami. Armand.
Annecy, le 2 juillet 1916. Je savais pas trop par où commencer ma lettre, mais je te dois un brin de vérité. Celle qu'on s'était jurée dans le trou où on s'est rencontrés. Je sais bien qu'on s'était promis de sortir vivant de ce bourbier, et que ni toi, ni moi, n'avons le droit de mourir. Mais ma santé décline. Les brûlures se sont résorbées, ça fait un peu rose sur la peau. Elle se reconstitue, comme toi qui apprends à marcher. J'ai l'impression d'avoir des fesses de bébé un peu partout sur mon corps. Les médecins pensent que le gaz a réussi à dépasser le derme ou quelque chose dans ce genre. Ils craignent une contamination du sang par cette saloperie. Mais ils n'en sont pas sûrs vu que mes analyses sont correctes. Non. Ce qui va de moins en moins bien, c'est mon souffle. Il s'amenuise. Tu te rappelles qu'une fois, je t'avais dit que tes ronflements me réveillaient? On dormait dans une casemate, une nuit où ça donnait moins. Eh bien là, c'est le bruit de mes poumons qui me réveille parfois, qu'on dirait un tubar en fin de parcours. Bordel. J'ai 24 ans, je suis trop jeune pour clamser. Je mets un temps pas possible pour me rendormir, cherchant 1000 positions pour que ça brûle moins, et c'est pas les traitements qui peuvent m'aider, vu qu'il y en a pas vraiment. J'ai même demandé à un chirurgien si on pouvait pas me changer mes poumons. Vivre avec les poumons d'un autre, même mort, serait préférable à ce que j'endure là. Mais il m'a répondu qu'en l'état actuel de la chirurgie, et malgré tous les progrès bizarres que la guerre a fait faire à cette science, c'était pas envisageable à court terme. Et qu'il faudrait sans doute que je vive avec ça, et quand je lui ai dit que je voulais rentrer sur Paris, il a tiqué. Et m'a bien fait comprendre que l'altitude et le froid sont mes meilleures garanties. Paulette me manque affreusement. Dis, l'as-tu vu dernièrement? Ses lettres s'espacent de plus en plus, sans compter que son écriture est de plus en plus illisible et que dans ses phrases, elle ne dit rien que des banalités. Elle ne parle plus de venir me voir et ne m'a pas envoyé la photo qu'elle m'avait promise. Je languis, mon ami, de te savoir si loin et Paulette aussi, et toute la vie qui m'attend à Paris et que je gâche mon temps avec des pauvres types qui n'ont rien à me dire que leur misère. Raconte-moi des choses jolies. Fais-moi rêver un peu. Et va voir Paulette. S'il te plaît, dis-lui de m'écrire. À te lire, Gustave.
Paris, le 31 août 1916. Mon cher Gustave, j'ai mis du temps à te répondre, mais je suis bien pris ces temps-ci. La fabrique demande tellement de travail que nos heures ont augmenté. Il faut fournir, et pas qu'un peu. Du coup, je reste souvent là-bas le soir, pour la comptabilité, les commandes, que je m'arrache les cheveux pour arriver à trouver des fournitures qui satisfassent et le patron et l'acheteur. L'armée est exigeante, mais elle sait bien qu'avec le blocus, les appros sont de plus en plus difficiles et faire plus avec moins est un défi quotidien. Figure-toi que l'autre nuit, j'ai même dormi sur place. Les gars de l'usine ont passé des heures à déballer un arrivage où rien n'allait vraiment. Il a fallu tout trier et ils ont le patriotisme qui leur colle tellement à la peau qu'ils font un travail supplémentaire sans réclamer leur dû. Je pouvais pas faire moins et je crois aussi qu'ils se sentent obligés par ma patte folle. Certains ont des fils sur le front, d'autres les ont déjà perdus. La guerre s'invite partout, et j'ai l'impression qu'on va faire des générations de pacifistes. Ce serait guère illogique. Du coup, quand je vois ces pauvres gars avec leur visage tout tendu et inquiets de savoir ce qu'on va leur annoncer comme malheur dans la journée, bah j'en fais plus, moi aussi. J'ai plus la tête à faire la fête, qui est pas vraiment de saison dans la capitale. Même mon appartement, j'ai pas encore pris le temps de bien l'aménager. C'est heureux que mon père soit trop vieux pour être mobilisé et que je n'ai que des sœurs. Armand.
Annecy, le 20 septembre 1916. Enfin, tu me réponds, mon ami, mais je dois te dire que ta lettre m'a laissé dubitatif. Dois-je comprendre que tu poursuis le combat depuis ton bureau? T'as bien assez donné, tu ne crois pas? À moins que tu n'aies rien à me dire. Rien à me raconter que cette lettre, que tant d'autres auraient pu écrire, et même en mieux, et même ton père qu'en aurait fait quelques paragraphes plus instructifs. Loin des yeux, loin du cœur, c'est ça? Ici, je poursuis une convalescence que je ne mets guère d'entrain à rattraper. Et pour cause, Ma santé se dégrade, c'est pas bon du tout. Ma peau s'est bien recollée, mais mes poumons répondent de moins en moins. Même marcher avec une canne, comme toi, me demande des efforts qui m'épuisent si vite que je dois m'asseoir sur le banc le plus proche. Et la beauté des paysages n'arrange rien à mon affaire. Ça contraste si dur que, tu le vois bien dans mon écriture, même tenir un crayon me demande de m'y reprendre à plusieurs fois. Bientôt, je le sais, je finirai assis complètement. Et puis, couché au final. Paulette a disparu. Plus de nouvelles, plus rien, pas même un signe. Je sais bien que vous ne vous connaissiez pas beaucoup, mais je t'avais demandé de passer la voir. Es-tu si pris avec ton travail que tu ne puisses passer dans l'arrondissement d'à côté pour lui demander les raisons de son silence? Et que si elle en a trouvé un autre, moins bariolé que moi, plus en état et qui l'a fait danser au bal, qu'elle ait au moins le courage de me l'écrire? Mais si c'est pas le cas, parce que je suis sûr que tu les lui donnes mes lettres et qu'elle est bien au courant de tout, et si elle pense qu'avec mes poumons ravagés par le gaz, comme l'est mon cœur par son silence, si elle estime que tout est foutu et qu'elle ferait bien de changer de cheval avant que celui-là ne passe à la réforme, si elle se morfond dans la détresse de jamais me revoir, elle a qu'à sauter dans un train. Qu'on s'explique tous les deux et tout le courage qu'elle m'apportera sera en plus pour ma guérison. Gustave.
Paris, le 20 octobre 1916. Mon ami, j'ai bien reçu ta lettre et j'y réponds à la nuit. Tu sais, les choses ne sont pas si simples et il y a bien des variantes de gris. C'est pas blanc-bleu horizon, comme tu le disais en te marrant. Tu sais, je me maudis d'être si pris par mon travail et que c'est si compliqué de se déplacer pour te rendre visite à Annecy. Mais c'est loin de Paris et comme tu me parles de toi, j'aurais peur de ne plus reconnaître celui qui m'a fait tenir quand rien n'allait. Tu te rappelles de nos nuits de marmite? De la mort qui prenait même plus la délicatesse de rôder, qui faisait exploser des types, des braves gars qu'on connaissait à peine leur nom, que déjà ils n'étaient plus que charpie là devant nos yeux. De celui-là qui t'était tombé dessus, là, qui avait plus de visage. Puis les rats, les poux, la crasse, l'odeur de pourriture qui s'infiltrait partout, même dans notre sommeil. Tout ça j'en veux plus, même si ça me hante encore dans mes nuits de pleine lune. Je veux du bonheur, et j'ai assez payé que parfois, ma guibole en moins, je sens qu'elle me gratte, et que je la foutrais bien au cul de tous ces généraux qui savent pas ce que les poilus endurent en vrai. La guerre nous unit, et elle nous sépare aussi. La fraternité des tranchées, c'est déjà des conneries pour anciens combattants que la guerre, elle est pas prête de finir. Et que le vainqueur, il se réveillera un matin, tout seul sur son tas de merde, vainqueur de fait, faute d'adversaire à combattre. Armand.
Annecy. Allez, te casse pas, mon ami. J'ai bien su lire entre tes lignes. Des lignes de front, même. Que ta guerre, c'est à moi que tu l'amènes qui te gêne encore d'être toujours en vie. Et de manifester le peu de souffle qui me reste dans des écrits. D'ailleurs, je peux plus écrire. Je suis alité le plus clair de ma journée. Et qu'on vient me faire pisser dans un bocal. Moi qui pouvais abattre des chaînes centenaires à coups de hache. Moi qui ai sauvé la vie du lieutenant qui était bloqué sous un cheval mort. Avec les Allemands qui faisaient du casse-pipe sur lui, et que j'ai sorti de là, et que même on m'a donné une médaille pour ça. Moi qui réconfortais les gars en leur chantant des chansons, et même que je chante bien. Pourrais-tu voir ma détresse, à faire écrire mes lettres par d'autres, que je tousse à cracher mes boyaux, que des chansons, je peux même plus en murmurer. Je vais crever Armand, même si je refuse de le savoir. La gueule atterrée des médecins me l'a bien fait comprendre. Et pas sûr que je passe les fêtes tellement j'ai perdu du poids. La gigue, les pots à boire et à reboire, les lampions, même la victoire finale, cette connerie. Je les verrai plus. Pas plus que je reverrai Paulette. Ce qui me fait le plus mal, c'est pas ces traitements inutiles qui font que prolonger mon agonie. Ni la mort que je sens qu'elle fait les 100 pas dans le couloir. Non. Ce qui me fait mal, c'est ton manque de courage. Gustave.
Paris, Gustave, je vais pas y aller par quatre chemins. Paulette et moi allons partir quelques jours dans sa famille, dans la Creuse. Ce sera pour les fêtes, en espérant qu'on veuille bien nous lâcher un peu. On a confié tes affaires à la Croix-Rouge, qui en a bien besoin. Et nous avons pris un nouvel appartement. Paulette ne dira rien. D'ailleurs, elle ne sait pas que je t'écris. Elle n'éprouve pas plus de honte et de remords que moi. Cette situation, personne l'a voulu. Personne ne peut en porter la responsabilité. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut se justifier, même si on pense à toi souvent, sans se le dire, et de comment va ta santé. C'est une chouette fille, et elle aussi a la conscience aiguisée de notre époque et comment les choses se précipitent, sans que tu le veuilles vraiment et qu'il faut vivre vite et tout de suite, de peur de tout gâcher. Ça, je sais que tu le comprends. Comme je comprendrais que je me suis comporté comme une pivoleuse, venue occuper un nid à moitié vide. Ce fut rien de forcé entre nous, ça s'est fait comme ça, comme je suis venu combler un manque par ma vigueur de vivre à fond. Et je suis bien en peine de comment conclure cette lettre. Armand, ton ami pour la vie et même après.
Annecy, le 25 décembre. Cher Armand et Paulette, ma belle, quand vous lirez cette lettre, je serai déjà plus de ce monde et probablement pas d'un autre. J'ai récupéré un petit caillou à glisser dans ma bouche quand tout deviendra insupportable. Il paraît qu'il suffit juste de le croquer, et c'est instantané. Mais tant qu'il me reste encore un souffle de vie, apprenez que c'est encore moi qui décide. C'est moi qui vous ai fait vous rencontrer, ce jour de permission de janvier. Si on cherchait une morale pour des jours de paix, on pourrait intituler ce conte « Le benêt, l'opportuniste et la grue ». Mais loin de moi ces idées qui me permettront pas de m'endormir en paix, ni vous de vivre la vie que vous méritez. C'est moi qui décide. Et donc je décrète que vous me devez une vie de bonheur, avec de bons métiers et de beaux enfants. C'était rien que mon ambition dans la vie. Mais d'autres en ont décidé autrement, faudra bien s'y faire. Armand, je te confie Paulette. Et voilà que je me prends pour un cureton ou un maire qui outrepasse son code civil. Mais il m'arrive encore de rire, tu vois. N'oublie pas Armand, mon copain pour la vie, qu'elle aussi, elle a les bronches fragiles et qu'elle s'enrhume pour un rien. Sans compter les angines. Qu'elle porte bien son écharpe en hiver et son châle au printemps. Et qu'elle fasse soigner cette dent de sagesse qui la relance régulièrement. Insiste pour qu'elle aille chez le dentiste. C'est un mauvais moment à passer. Mais il durera moins longtemps que mon agonie. Quant à toi, Paulette. Ma belle, mon aimée, promets-moi de ne pas m'oublier complètement. Mais assez tout de même pour que je reste un bon souvenir. Si un jour tu portes un fils, donne-lui comme prénom Gustave. Mais c'est pas obligé. Occupe-toi bien de mon ami Armand. Ce voleur de poules. Pire qu'un renard, celui-là. Mais avec sa gueule d'ange et ses boucles brunes, je sais bien que n'importe quelle femme aurait fondu devant lui. Et si un jour tu reviens du marché avec une robe qui n'était pas prévue dans le budget, cache donc sa jambe de bois. Qu'il puisse contempler depuis son fauteuil comment les robes, tu les portes si bien. Et si la nuit, il cauchemarde, pose ta main sur son front et chantonne. Ça le calmera. Je vous serre tous les deux sur mon pauvre cœur qui palpite si mal. Ne m'oubliez pas complètement. Gustave.
Must be so.